Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
On est de retour à la zone payante, c'est notre quatrième essai. On va faire, quitte à se faire blâmer comme Doug Peterson, mais on va y aller à quatre, à notre quatrième essai. Puis là, on va commencer avec la division où il y a les équipes de la Pennsylvanie, les Steelers. Les gars, on dirait qu'on n'est pas confiant à chaque semaine, les Steelers, quand on les regarde jouer. Ils finissent par gagner, puis ils affrontent pas des bonnes équipes, ils ont un peu de difficultés. Encore en fin de semaine, là, ils vont sans doute s'en sortir, mais est-ce que les Bengals, quoi que ça n'a pas été serré en fin de semaine, mais qui est équipé physiquement ou avec le talent qu'ils ont dans leur équipe pour battre les Steelers d'ici la fin de l'année? Moi, je regarde leur horaire, j'en vois pas.
Écoute, les trois meilleures confrontations, je pense qu'on peut sortir, c'est ils vont affronter à nouveau les Ravens, t'as les Bills, t'as les Colts. Selon moi, c'est les meilleures formations. Tu pourrais ajouter à la dernier match de l'année là, les Browns, mais moi, je pense que c'est la meilleure chance provient de ces équipes-là. Qui a, selon moi, une solide... je pense que les Steelers vont avoir de la difficulté contre un carrière mobile. Donc, j'enlève pour moi les Colts. La meilleure chance pour moi provient soit des Ravens, soit des Bills. Et juste par instinct, moi, je dirais avec Josh Allen. Josh Allen, j'ai l'impression qu'il va sortir un gros match. Il va être à la maison face aux Steelers. Les Steelers vont avoir joué préalablement. Les Ravens vont peut-être sortir un peu amochés. Je mettrais mon argent sur les Bills de Buffalo, messieurs.
J'y vais avec les Bills aussi. J'avais un peu le même constat que Jean. J'avais regardé le calendrier des Steelers. Il reste quand même des bons défis. Là, faut pas présumer qu'ils vont être 16-0 là, quand même. C'est très prématuré. Mais si j'avais un vieux 2 à mettre, ce serait sur les Bills, surtout qu'ils jouent à Buffalo à la semaine 14. Les Steelers, peut-être un petit peu d'usure. Là. T'sais, rappelez-vous, il y a beaucoup d'équipes invaincues qui, c'est à ce stade-là, qui commencent à flancher parce qu'ils se font poser la question à chaque semaine. Pensez-vous à la saison parfaite? Ça revient constamment. C'est souvent dans ces circonstances-là que le rêve s'éteint. Donc, comme Johnny, là, j'y vais avec un Bills, peut-être. Là, donc, on ne chicanera pas sur celle-là.
OK, les Ravens, on venait d'en parler. Est-ce que là, on a vu le match de dimanche soir, là, vraiment, on se demande si Bill Belichick contrôlait les éléments, là, parce qu'à la fin du match, ils ont eu une tempête de tous les diables pour essayer une remontée, puis Lamar Jackson, il a fini ça comme il avait commencé. Est-ce que les Ravens sont équipés pour aller en série? Je sais que je reviens avec ça à chaque émission, mais je la sens pas. Je trouve que c'est la plus grosse déception de l'année, les Ravens. J'ai l'impression qu'ils vont glisser en dehors des séries éliminatoires.
Ouais, mais ils pouvaient pas faire autrement que de décevoir par rapport à leur saison de l'an passé où ils dominaient match après match, ils s'imposaient physiquement. C'est certain que les équipes allaient s'ajuster là, le moindrement. Je continue de croire, moi, qu'ils vont aller en série. Ça va être beaucoup plus compliqué que ça l'a été l'an passé. Tu vois, ils ont deux gros matchs qui s'en viennent contre les Titans, les Steelers. Mais la fin du calendrier est beaucoup plus confortable. Tu sais, au menu, là, t'as les Cowboys, les Browns, les Jaguars, les Giants, les Bengals. Donc, des victoires que, on parle jamais de garantie, mais il y a moyen d'aller chercher quelques matchs là pour aller chercher une fiche qui est suffisante pour passer en série. J'aime juste pas, moi, le fait que l'attaque est devenue un peu stagnante là, cette saison. Ça me fait un peu penser à... Rappelez-vous les 49ers avec Colin Kaepernick, c'est 2011-2012, 2013, là, dans ces années-là. Kaepernick embarque, c'était Greg Roman, le coordonnateur offensif, le même qui est là avec les Ravens actuellement, puis c'était tout feu, tout flamme. Kaepernick avait l'air invincible, il n'y avait rien à son épreuve. Tout à coup, l'année d'après, wow, ça commence à baisser un petit peu, puis peu à peu, là, finalement, il est disparu de la carte. Je dis pas que c'est ce qui s'en vient avec Lamar Jackson, là. Il est quand même plus complet que pouvait l'être Kaepernick, mais il va falloir que cette attaque-là puisse trouver une façon d'évoluer, puis c'est ce qui semble difficile en ce moment. Là,
Jean, comment tu trouves le non-verbal de Lamar Jackson? Je sais pas si tu le vois s'asseoir, puis... Pas regarder, pas parler à personne. Ça m'inquiète d'avoir un joueur qui devrait être un leader, aller s'asseoir puis bouder.
Je vois pas qu'il boude nécessairement. C'est sûr qu'il faudrait être un peu plus près de l'équipe pour savoir exactement comment il est. Il a l'air de, quand il rentre, il regarde les jeux là qui est devant lui. C'est sûr qu'il a l'air très très calme. Est-ce qu'il est dans sa bulle
peut-être,
ou comme
peut-être
tu dis, est-ce qu'il boude? Tu sais, c'est dur à déterminer. Moi, j'ai l'impression qu'il est un peu plus dans sa bulle, tout simplement. Mais une chose est sûre, moi, ce qui m'a dérangé, les gars, du match face aux Pats, c'est, je me semble que les Ravens sont bâtis pour remporter un match comme ça. Un match...
Ben, les éléments, la pluie, la boîte, c'est parfait pour eux autres.
Ben exact. Leur type d'attaque, c'est une attaque qui est supposée fonctionner malgré ces éléments-là. Puis se sont comme fait battre un peu à leur propre jeu par les Patriots. Ça, moi, ça m'a dérangé un peu. Mais c'est sûr que quand il y a des éléments comme ça qui fait vraiment pas beau, ça favorise toujours l'équipe qui est moins bonne, l'équipe la moins talentueuse. Puis dans ce cas-ci, c'était les Pats. Ceci étant dit, moi, je pense que les Ravens vont faire les séries, comme Stéphane a parlé, après le match contre les Steelers. Le calendrier est beaucoup plus facile. Ça va peut-être permettre là, de retaper un peu le moral des troupes. Puis on va revoir les séries. On va voir les Ravens en série. Mais une chose est sûre, je suis pas convaincu que si cette équipe-là, par contre, tire de l'arrière, qu'ils vont être en mesure de revenir. C'est la question qu'on se pose depuis 2 ans et demi, depuis que Lamar Jackson est aux commandes de cette attaque-là. S'ils tirent de l'arrière, est-ce qu'ils peuvent gagner? Et pour le restant, la réponse, c'est non, tout simplement.
Aucun catch accordé par Jalen Ramsey face à DK Metcalf en fin de semaine. Est-ce que ça en dit plus sur Metcalf ou sur Ramsey, d'après vous?
Sur Ramsey, pour ma part. Parce que ça me semble évident, parce que Metcalf a connu des moments vraiment extraordinaires cette saison. Faut pas oublier une chose, le gars a été créé en laboratoire. Il va revenir en force. Dans ma tête, un mauvais match, ça arrive. Alors que Ramsey, c'est match après match après match où vraiment il a montré qu'il peut éliminer un receveur adverse ou un côté du terrain, là, dépendant des plans de match. Donc, pour moi, ça en dit beaucoup plus sur Ramsey là, dans ce contexte-là.
Oui, puis tu sais, j'aurais quand même tenté ma chance à une ou deux reprises là, du côté de Russell Wilson. Je comprends, tu sais, c'est pas le fun d'avoir DK Metcalf puis dans ses shots Jalen Ramsey, mais j'aurais aimé ça qu'il lance quand même un ou deux ballons dans les zones profondes, des ballons 50-50 pour voir, hey, c'est qui va l'emporter. Ça, il l'a pas fait. Donc, c'est sûr que ça a favorisé Jalen Ramsey. Écoute, il y a eu, je pense, deux tentatives. Ouais. Sa première tentative ou sa première cible du côté de Metcalf, c'est venu au troisième quart. Je veux dire, ça fait quand même un sacré bon bout de temps avant de voir du cuir là, proche de toi. Donc, mais honnêtement, je donne tout le crédit à Jalen Ramsey. Puis d'un point de vue stratégique, je veux pas trop nécessairement embarquer là-dedans, mais il n'y a pas juste Jalen Ramsey qui a fait le boulot. Le commentateur défensif des Rams a été très allumé. Ils ont joué beaucoup de combo coverage, des mélanges un peu de Jalen Ramsey qui jouait homme à homme avec une certaine partie de la défensive qui jouait de la défensive de zone. Donc, je pense qu'ils ont mis un peu de confusion.
Ils l'ont éliminé du jeu, là.
Ils ont mis de la confusion un petit peu, là, je pense, dans le plan de match des Seahawks. Mais honnêtement, il faut donner tout le crédit à Ramsey. Il a été vraiment, vraiment solide.
Bon, tout le monde était triste un peu là, de voir Drew Brees s'étirer et avoir mal aux côtes en fin de semaine dans son match. On espère que c'est pas le début de la fin parce qu'on apprend qu'il va manquer plusieurs semaines. Par contre, ça donne une occasion. L'année passée, c'était Teddy Bridgewater qui a profiter un peu de la blessure de Drew Brees. Là, est-ce qu'avec les nouveaux ouverts de contact de Jameis Winston, on risque de voir une renaissance de la carrière de ce corps arrière qui est capable de lancer des longues passes, mais on ne sait jamais dans quelles mains ils vont atterrir.
Ouais, j'espère que ces verres de contact sont bioniques ou je sais pas, là, mais c'est un problème qui est difficile à corriger. T'sais. Tu regardes les corps arrière comme lui qui, historiquement, quand ça se produit à l'université, quand ça se répète dans la NFL, à quel point le problème est vraiment possible à corriger, c'est difficile à dire. Cela dit, ce qu'on parle jusqu'à maintenant, là, moi ce que j'ai vu à gauche à droite, on parle d'une absence de 2-3 semaines. Ils sont très bien capables de survivre les Saints avec un gars comme Winston aux commandes. Moi, ce que j'ai hâte de voir surtout, c'est comment il va être utilisé par rapport à Taysom Hill. Est-ce que tu continues d'embarquer des packages de jeu avec Taysom Hill, où là, tu y vas plus là, vers l'élément surprise. Est-ce que tu gardes Taysom Hill sur le banc parce que ça te prend un réserviste en santé si Winston se blesse à son tour? Pour moi, c'est tout ce déploiement-là là, qui amène une intrigue.
Là, Jean, Taysom Hill, là, je sais que tu le vantais la semaine passée comme joueur obscur, là, mais j'ai regardé un peu combien les Saints le paient. Là. D'après moi, il a le salaire d'un gars qui devrait être sur le jeu à presque tous les jeux. Là. Est-ce que c'est lui que tu mettrais derrière le centre?
Ça dépend. Je pense moi, je suis convaincu. On voit ce que les Saints pensent vraiment de Taysom Hill. Puis, la façon qu'il est utilisé, on le voit comme un couteau suisse. On le voit plus ou on le voit pas. Peu importe ce que l'entraîneur-chef Peyton faisait miroiter à Taysom Hill, je pense qu'on a eu la réponse. Parce que quand c'est Drew Brees qui a été blessé, c'est pas Hill qui est venu dans la formation, c'est Winston. Puis l'an dernier, c'est Bridgewater qui a été le carrière utilisé. Donc pour moi, ça répond à cette question-là. Peyton peut mentionner ce qu'il veut, il peut le dire, on le voit comme notre carrière d'avenir. Moi, je pense que c'est pas nécessairement vrai. Je l'ai cru un petit peu au début, mais là, c'est évident pour moi que la réponse, ça va être dans les mains de Jameis Winston. Puis moi, j'ai confiance en Jameis Winston, peut-être contrairement à l'opinion publique. C'est possible qu'il me fasse mentir puis qu'il lance interception après interception, mais j'ai l'impression que Peyton, l'entraîneur-chef, va lui donner un plan de match très conservateur, comme il a fait avec Teddy Bridgewater. Il va ouvrir un petit peu semaine après semaine, mais je pense qu'il est très conscient des faiblesses de son carrière sur les revirements, puis il va le protéger face à lui-même. Je suis convaincu qu'il va faire un bon travail là-dessus. Puis quand on regarde aussi l'opposition que les Saints vont avoir, écoute, on affronte Atlanta, Denver, Atlanta, Philadelphie. C'est pas nécessairement la mer à boire.
Ouais.
Moi, je pense qu'ils sont capables facilement d'aller chercher 3 victoires, 1 défaite à l'intérieur là, de ce cadran-là de 4 matchs. Là.
C'est la question quiz, celle dont je vous fais pas mention avant qu'on se parle. Fait que là, faut que vous fouillez dans vos souvenirs. Cette semaine, Tua Tagovailoa a gagné son 3e match en 3 départs. Ça, c'est rare pour les quarts arrière qui sont repêchés top 5. Parce que souvent, ils commencent avec leur équipe qui ont fini dernière et le début de saison est difficile. Par contre, il y a 2 autres quarts arrière qui ont remporté leurs 3 premiers matchs depuis 5 ans alors qu'ils ont été top 5 dans le repêchage. Qui sont-ils? Il y en a un qui est encore actif et l'autre qui ne l'est plus.
Hey, déjà. Écoute, ça serait-tu, y aurait-tu Marcus Mariota là-dedans?
Non, non, mais il y a un Mark.
Mark Sanchez?
Mark Sanchez a gagné ses 3 premiers matchs avec les Jets.
Ça, écoute, une chance que tu as donné un indice, mais j'aurais jamais trouvé ça.
C'est pas pire. J'aurais pas pensé qu'il aurait servi à quelque chose au-delà
Il est plus connu pour le jeu le plus loufoque de l'histoire du football.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et l'autre est toujours en poste et même qu'il est partant pour une équipe dont on a discuté plus tôt et qui a des difficultés.
Ah, ce serait Russell Wilson ou?
Non. Russell a été repêché dans les 5.
Ouais. Ah oui, c'est vrai, tu parlais de top 5. J'ai oublié cet élément-là. Ah, écoute, je donne
une
ma langue
de la
au
Pennsylvanie? C'est Carson Wentz. C'est avant eux, c'était Jim Everett.
Oh mon Dieu, carrière des Rams.
Il y a pas souvent des il y a 5 carrières seulement qui ont remporté leurs 3 premiers matchs alors qu'ils ont été repêchés top 5 dans l'histoire récente de la NFL.
Écoute, moi j'aurais dit Big Ben. Big Ben avait gagné le Super Bowl son année recrue.
Ouais, mais lui il a pas été top 5 non plus, je pense.
Non plus, effectivement.
C'est ça. Là, il y avait beaucoup d'éléments dans cette question-là. Ouais, mais c'était intéressant de fouiller dans nos souvenirs comme ça. J'aime ça.
Puis Stéphane, juste, j'en ai une petite rapide. Il y a un autre joueur qui a passé Joe Montana la semaine passée. Est-ce que tu sais c'est qui?
Hey, je l'ai vu passer, ça, Colin. C'est qui déjà?
C'est Matthew Stafford.
Ouais, Matthew Stafford. Ouais, c'est ça. Ben écoute, toutes les.
C'est déjà plus glorieux que notre capitaine Joe Flacco, là. Mais
toutes les matchs.
toutes les marques d'époque vont tomber. Ça sera même
aucun plus drôle.
À un moment donné, au bout de 3-4 saisons, les grands carrières vont se faire supplanter. Faut pas toujours se fier à ces chiffres-là.
OK, rapidement, les gars, là, on approche les séries dans les fantasy. Encore 3-4 semaines. Y a-t-il un joueur là, qu'on peut aller chercher? Là, du Jakeem Grant, là, ça vaut-tu la peine d'aller le chercher à Miami là, si la chimie fonctionne avec toi, Tango Vailoa?
Ben moi, j'irais plus à Miami du côté de Salvin Ahmed. J'ai bien aimé ce que j'ai vu en fin de semaine. T'sais, c'est pas rien de si extraordinaire. Mais là, ils viennent de couper Howard. T'as des blessés au poste de porteur de ballon. Donc, pourquoi pas prendre une chance sur lui? Moi, je me dis, à ce stade-là, il peut pas nuire. Évidemment, tu mises pas ta maison sur un gars comme ça, là. Mais il a semblé impressionner le coaching staff. Brian Flores a été très content de sa performance. Donc, pourquoi pas?
Moi, je pensais à Allen Lazard, le receveur des Packers de troisième année, qui revient d'une blessure. La chimie était bonne avec j'allais encore dire Brett Favre, mais avec Aaron Rodgers en début de saison. Évidemment, il y a eu une blessure. C'est Marquez Valdes-Scantling qui a un peu pris la pole depuis. Mais écoute, Lazard est supposé revenir là, en fin de semaine. C'est toujours difficile là, de prévoir un gars comme ça qui revient d'une blessure. Mais quelqu'un qui est mal pris, ça peut être un bon « boom or bust », comme on dit.
OK, merci. Brett Favre, lui, tu le prendrais pas. Tu le laisserais sur le waiver s'il était là?
Ah, je le prendrais quand même, moi, j'en ai.
Ouais, c'est vrai. Bonne mentalité de gunslinger, ça vaut toujours la peine dans ton pool quand t'as besoin
d'un
coq. 24 points, mais 4 interceptions. OK, on s'arrête là, les gars. Après, là, c'est une semaine, je pense que c'est la semaine la plus difficile de l'année à prédire. J'ai bien hâte de vous entendre parce que moi aussi, il faut que je fasse mes choix. Restez là. Après la pause, c'est les prédictions pour la semaine 11 de la NFL.